Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 février. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission autour de l'actualité en Mayenne, et oui. Et on va parler aujourd'hui du festival Monte dans le bus, festival musical pour le jeune public, mais pas que. Aussi pour les enfants, vous le verrez, pour les enfants et les adultes, il y a aussi toute une programmation qu'on va détailler avec l'un de ses programmateurs, puisque le festival arrive très vite, il va commencer le 21 février, donc dans un petit peu moins de 2 semaines pendant les vacances, évidemment, pour qu'on puisse en profiter. Et puis on va parler à nouveau des ateliers nesting proposés par le centre hospitalier Lavallois, atelier sur la pollution environnementale pour les bébés, puisqu'un nouvel atelier est proposé ce soir justement à l'hôpital de Laval. On va revenir sur l'intérêt finalement de ces ateliers, comment ça se passe, à quoi ça sert et à quoi il faut faire attention, avec quelques bons conseils aussi à retrouver dans cette interview. Et puis comme chaque jeudi, on retrouve aussi notre cycle de reportage Pensée locale qui part du côté de la Loire-Atlantique aujourd'hui sur... sur des terres viticoles, où justement on va parler d'un cépage qui avait été un petit peu oublié et remis au goût du jour par une association. Ça, ce sera plutôt à retrouver en fin d'émission. Mais d'abord, un rapide point sur l'actualité dans le département, avec la levée du plan blanc à l'hôpital de Laval, justement, grâce à une amélioration des indicateurs épidémiologiques. L'Agence régionale de santé a demandé donc à la direction de l'hôpital Lavallois de ne plus maintenir ce dispositif. Malgré tout, la situation reste assez tendue sur place, puisque le niveau 1 du plan de mobilisation interne est maintenu. On connaît la date de passage de la flamme olympique. Elle est attendue le mercredi 29 mai 2024 en Mayenne. Ce sera un petit peu plus de 2 mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Aucun détail pour l'instant sur son parcours mayennais n'a été dévoilé. On connaîtra la liste des communes traversées au mois d'avril prochain. Après plusieurs mois de fermeture, il rouvre enfin. Les bassins intérieurs de la piscine Saint-Nicolas à Laval seront à nouveau accessibles dès lundi prochain, dès ce lundi 13 février. Ils étaient fermés à cause d'une panne de la pièce majeure de la centrale de traitement d'air, donc fermée depuis le 17 novembre dernier. Et des séances de rattrapage vont être proposées aux 600 adhérents de la piscine. Session de récupération donc organisée dans les prochaines semaines. Attention, si vous devez emprunter le pont Aristide Briand à Laval la semaine prochaine, puisque les arches installées au-dessus du pont qui avaient servi pour les décorations des lumières de Laval vont être démontées cette semaine-là. Le pont est donc susceptible de fermer de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi en fonction des besoins, explique la ville. Et puis, un gâteau d'anniversaire avec 10 bougies. Et oui, c'est celui du festival de jeunes publics qui monte dans le bus, qui revient sur le territoire de Laval Agglo du 21 au 26 février, avec plusieurs propositions. Donc, festival né en 2013 à l'initiative du 6x4 à Laval. Il s'est ensuite élargi à Changé, Saint-Berthevin, Bonchamp et au théâtre aussi lavallois. Donc, une dixième édition où il y a déjà beaucoup de billets qui sont partis, plus de 70% de la billetterie est déjà partie, mais il reste encore quelques places pour de jolis spectacles, puisqu'il y a 10 spectacles qui sont proposés, et on va faire un petit focus sur ceux justement où il reste des places, pour j'espère vous donner envie d'aller en voir certains, avec Yann Bieuzan, c'est le directeur de l'association Poc Poc, donc qui gère le 6x4 et donc aussi la programmation de ce festival Monte dans le bus.
Alors, Monte dans le bus, c'est le festival pour enfants qui rend jaloux les parents, qui se passe pendant 5 jours sur l'agglomération de Laval, entre les villes de Laval, Changé, Bonchamp-lès-Laval, Saint-Berthevin et Loiron-Rouillé.
Ça commence là, en l'occurrence, le 21 février, ça se poursuivra jusqu'au 26. Beaucoup de propositions musicales aussi, j'ai repéré. Est-ce que c'était déjà le cas les années précédentes ?
Alors en effet, Monte dans le bus, c'est un festival musique jeune public et c'est vraiment le leitmotiv en mettant un accent tout particulier sur les nouvelles créations. Cette année, le festival accueille sur les 8 spectacles, 3 nouvelles créations qui ont été produites en 2022. Dont une qui a été coproduite par le 6x4 sur l'année 2022. La création s'appelle Dogo. Dogo, c'est un ciné-concert sur l'univers du chien. Et en fait, c'est une esthétique très connotée autour du cinéma de l'Est. Et c'est très féerique, très joli, où justement on va beaucoup parler de nos amis les chiens. C'est une musicienne qui s'appelle Ellie James qui chante et qui joue. Et vraiment, c'est un super moment à aller découvrir. Donc ça, c'est à Saint-Berthevin le vendredi 24 février. En effet, il reste quelques places.
Vous parliez effectivement de ces trois créations de l'année. Il y en a une autre.
Alors, Corde à linge, il y a du monde sur la corde à linge. C'est un ciné-concert sans film et sans écran. C'est vraiment un concert bidouille avec des jouets qui servent d'instruments. Et pareil, c'est vraiment sur les sensations, les émotions qui peuvent être ressenties. Donc, vous verrez, c'est un très beau spectacle aussi.
Autre spectacle, pour le coup, un peu peut-être plus difficile à présenter, en tout cas à définir, mettre une étiquette, Anima, qui propose une performance musicale et audiovisuelle.
Alors là, c'est pareil, on va rentrer dans l'avant-scène et vraiment le spectacle va nous prendre. C'est vraiment une sorte de... C'est très immersif. Du coup, vous allez être pris par plein d'expérimentations sonores. Qui vont évoquer le temps qui passe. Le temps qui passe, le temps qui reste et les tout petits riens du quotidien. Et voilà, ça va vraiment nous prendre du début jusqu'à la fin. Et puis on retournera dans le monde réel à la fin. C'est très difficile en effet à expliquer, mais c'est juste un univers qui se crée le temps du concert.
Donc ça, ce sera à retrouver le 24 février à 15h, effectivement, à l'avant-scène à Laval. Et puis une nouveauté de cette 10e édition, c'est le village, forcément dans un lieu qui permet cette proposition-là, au 40 à Laval.
Oui, en effet. Alors, on a voulu une journée sous le signe de l'amusement, de la découverte aussi de plein de choses. L'idée, c'est que... au 40, on y retrouve de 10h jusqu'à 17h des ateliers de toutes sortes, des ateliers chant, des ateliers radio avec l'autre radio, mais aussi des ateliers stop motion, donc on apprend à faire des petits films d'animation. L'idée, c'est qu'il y ait toute une série d'ateliers qui aient lieu pendant la journée au 40. Et cette journée sera clôturée par un grand bal rock qui s'appelle Let's Dance, où là, les enfants vont pouvoir se donner à cœur joie à sauter, crier et danser dans tous les coins de l'auditorium du 40. En fait, ce bal rock nécessite des personnes qui souhaiteraient être complices danseurs, c'est-à-dire que on n'est pas là pour faire du flicage d'enfants, loin de là. C'est plus les initier à la danse ou en tout cas leur montrer des mouvements et puis être complices des musiciens et de la troupe de la compagnie qui vient faire le spectacle pour en fait mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles dans ce bal. Alors, faut prendre contact avec le 6x4 sur le site du 6x4 à la section Monte dans le bus.
C'est aussi à cet endroit-là que vous pourrez retrouver la programmation complète du festival et aussi la billetterie, sachant que l'entrée est à chaque fois à peu près à 6€, ou bien même il y a des propositions qui sont gratuites, mais c'est sur inscription donc au lien indiqué, donc sur le site du 6x4 dans la section Monte dans le bus, sachant que l'année dernière plus de 2000 personnes avaient été accueillies sur cette édition qui là est bien partie pour dépasser ce chiffre. On va rester en musique justement, pas forcément musique qui s'adresse au jeune public mais à tout le monde, avec Jimmy Needles et Shackles. Sur l'autre radio, à l'écoute de l'agité du local et là plus précisément de Shakers, issu de l'album du même nom de Jimmy Needles, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et tout de suite, on va passer à l'interview, interview qui avait déjà, si vous êtes attentif, été diffusée il y a à peu près un mois dans cette émission. Mais c'est l'occasion d'en reparler aujourd'hui, puisqu'elle est consacrée aux ateliers nesting proposés par l'hôpital de Laval pour les jeunes parents ou les futurs parents. Atelier nesting qui a lieu ce jeudi soir de 17h à 19h en salle de préparation à l'accouchement. Qui a lieu une fois par mois jusqu'à la fin de l'année. Le nesting, qu'est-ce que c'est en tout cas? Eh bien là, l'objectif de ces ateliers, c'est de donner des conseils aux donc jeunes parents ou futurs parents pour éviter les polluants du quotidien et préparer un environnement sain pour leur enfant. Prochain atelier donc ce soir de 17h à 19h et qu'on va présenter avec deux de ses animatrices. On les écoute.
Moi, je m'appelle Stéphanie Ducoing, je suis infirmière puéricultrice dans le service de néonates à l'hôpital de Laval.
Et moi, Pauline Pâtier, je suis infirmière puéricultrice en maternité à l'hôpital de Laval également.
Et donc, toutes les deux, vous êtes animatrices de ces ateliers nesting proposés aux parents, ici, à l'hôpital de Laval, depuis le mois de novembre, je crois. Déjà, nesting, c'est un mot qui interpelle un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire?
Nesting vient de l'anglais « nest », qui veut dire « faire son nid ». Donc, les ateliers nesting vont parler de l'environnement de l'enfant, du nouveau-né, en fait. Essentiellement l'environnement intérieur, donc on va parler de tout ce qui entoure l'enfant, du mobilier à l'alimentation, au contenant alimentaire, au matériel de puériculture, aux produits ménagers, à l'habillage.
Tout ce qui est aussi multimédia, tout ce qui est ondes, babyphone, tout ce qui est nouvelles communications, nouvelles... nouveautés, par exemple les vidéos, tout ça, tout ce qui concerne les surveillances que les parents souhaitent maintenant faire auprès des enfants et qui peuvent aussi intervenir du coup dans les ateliers.
Ce que vous disiez justement juste avant cette interview, c'est que vous vous êtes formé pour faire ces ateliers. Auprès de quel organisme? Comment ça se passe?
Donc on s'est formé sur Angers en trois sessions en fait, avec l'organisme WECF, qui est en fait une ONG écoféministe qui du coup forme en fait des infirmiers, des sages-femmes, pas mal de professionnels hospitaliers du coup à ces ateliers.
Justement, cette formation, est-ce que c'est vous qui avez souhaité la suivre ou est-ce que bah, finalement aujourd'hui ça devient presque obligatoire par rapport à vos activités, votre métier au quotidien d'avoir cet apport en plus ?
Alors, je pense que toutes les deux, on était sensibilisés à l'environnement et il y a une occasion, en fait, on nous a proposé ces formations. On y a répondu parce qu'on y voyait un intérêt, en effet, professionnellement. Mais je crois qu'à titre personnel, on est déjà sensibilisés.
À la fois pour les parents et aussi pour le personnel. Ici, comment ça va se passer très concrètement ?
Donc on a déjà commencé pour obtenir nos certifications auprès des professionnels du pôle mère-enfant, où on a formé on va dire les trois quarts, je pense, de nos collègues. Et donc là, on a eu le premier atelier au mois de novembre auprès des parents. Et donc le futur atelier, le 12 janvier, sur l'hôpital, de 17h à 19h, qui du coup est ouvert à tous les parents, futurs parents, qui souhaitent participer. Et donc on aura un atelier par mois sur l'année qui sont programmés. Là, on va dire que c'est le premier. Voilà, on teste aussi au niveau des horaires pour voir si ça convient aussi. Du coup, de 17h à 19h, le jeudi après-midi, voilà, si on juge qu'il y a besoin de changer d'horaire, peut-être qu'on verra. En tout cas, on s'adaptera aux parents et à la demande des parents.
Et alors, sur le contenu même de ces ateliers, justement, là, par exemple, le premier, il va être consacré à quoi ?
Donc, les ateliers sont tous identifiés de la même façon, en fait. L'atelier Nesting, c'est un lieu d'échange et d'information où on va parler essentiellement de l'environnement intérieur, donc de l'air intérieur, et puis ensuite, on va élargir à ce que j'ai pu nommer tout à l'heure, les différentes thématiques. Lieu d'échange et d'information. Donc, nous, on a des données à transmettre. L'idée étant de faire identifier les polluants qui peuvent être en contact avec l'enfant, avec le nouveau-né, donc pouvoir les repérer pour ensuite leur proposer des solutions ou des solutions alternatives ou des changements. C'est une sensibilisation essentiellement et surtout avec ce qui nous tient vraiment à cœur, de ne absolument pas culpabiliser les parents. Déjà, de venir, de s'intéresser à l'environnement de leur enfant, c'est déjà un très grand pas. Et ensuite, ils prendront ce qu'ils pourront et ce sera déjà bien.
Oui, tout à fait. L'objectif, c'est que les futurs parents ou parents se sensibilisent et voient aussi, effectivement, sans culpabiliser, ce qu'ils ont déjà fait. Parce que chacun fait déjà. C'est quand même un thème assez abordé maintenant et de plus en plus. Donc, tout le monde fait un petit peu et se dit que pourquoi pas faire encore un petit peu plus et en déculpabilisant surtout les parents. Donc effectivement, le but, c'est d'avoir du monde qui puisse venir encore plus pour se dire qu'effectivement, c'est vraiment un libre-échange total pendant 2 heures et qu'on accompagne juste pour donner des informations supplémentaires aux jeunes parents.
Est-ce qu'il y a quand même des grands thèmes qui ressortent ou des grandes pollutions sur lesquelles on vous pose des questions aussi ? Qu'est-ce qui inquiète le plus peut-être ?
Alors, je pense que ce qui revient, les perturbateurs endocriniens, c'est quand même, c'est un mot qui parle à, je pense, beaucoup de personnes, puisqu'on en a beaucoup entendu parler avec les biberons. Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien, et donc ça parle aux parents, ça. Donc on part déjà des choses, des notions acquises, et puis ensuite on élargit et on propose des solutions. Si on reste sur cet exemple-là, des biberons notamment, on va plutôt leur suggérer d'aller vers des biberons en verre ou en inox. Maintenant, c'est ce qui semblerait être le mieux.
Est-ce qu'il y a autre chose qui revient souvent, ou à l'inverse, qui est très méconnu des parents et auquel justement vous vous dites bah, ces ateliers-là, c'est aussi l'occasion de parler de...
La qualité de l'air avec l'aération de nos maisons. C'est quelque chose qui est très simple, très facile à faire. Les recommandations étant d'aérer sa maison 2 fois par jour, le matin et le soir. Et rien qu'avec ça, déjà, ça permet d'éviter et d'éliminer un maximum de polluants présents dans nos maisons. et dans l'environnement de l'enfant. Ça fait partie des petites choses très simples à faire et à mettre en place et qui ont déjà un très bel impact positif.
Et ben, par exemple, dans tout ce qui est, en général, premier enfant, achat de mobilier, mise en place de la chambre, tout ça. Donc, par exemple, on peut suggérer également l'achat plutôt que de meubles neufs, plutôt aller sur le seconde main. Ou si les parents souhaitent effectivement chambre neuve, ce qui est totalement légitime, de la préparer bien en avance et d'aérer, justement, en revenant sur l'aération, d'aérer deux fois par jour et pendant plusieurs semaines pour être sûr que tout ce qui est composant et également volatile, polluant, puisse être éliminé au maximum de la chambre avant que le bébé y arrive. Ça se prépare en amont. Pareil pour tout ce qui est vêtements, tout ce qui est body, pyjama, tout ce qui est préparer la valise, bien penser à au moins laver les vêtements avant de venir et qu'ils ne sortent pas directement du magasin. Voilà, ça permet de protéger aussi et d'éliminer au maximum les polluants qui pourraient être sur les tissus, et l'achat de seconde main également sur les vêtements est une bonne idée aussi.
C'est vraiment l'idée de l'atelier en fait, c'est de faire repérer les choses toutes simples qu'on peut changer de façon très aisée dans la mesure où on a connaissance en fait. Que certains produits sont moins bons que d'autres, moins sains que d'autres. Notamment sur les cosmétiques, on pourra aussi aborder les labels, les écolabels, donc favoriser plutôt les cosmétiques portant ces indications-là, ou des cosmétiques ayant le moins d'ingrédients possible dans la composition. Vous voyez, ce sont vraiment des choses toutes simples, dans la mesure où on en a connaissance en fait.
Pour tout ce qui est ondes ou écrans qu'il y a de plus en plus peut-être par rapport à il y a 10 ou 20 ans, à quoi est-ce qu'il faut faire attention justement quand on est jeune parent par rapport à son enfant, dans son habitude, dans son environnement au sens large ?
Essayer de les sensibiliser surtout en fait à la distance déjà, par exemple juste avoir son téléphone portable pendant qu'on a l'enfant, du coup c'est moins recommandé, les ondes on sait que ça passe, dans tout ce qui est par exemple babyphone ou vidéophone comme je disais tout à l'heure, du coup mettre une distance en fait entre l'enfant et l'appareil de surveillance, donc il faut au moins 2 mètres de séparation en fait entre la tête du bébé et les appareils, et encore plus loin s'il faut, voilà, vraiment mettre à l'opposé de l'enfant en fait, pour limiter au maximum les ondes. Et puis après, principe même de rien que d'éteindre son Wi-Fi la nuit, voilà, des petites astuces qu'on peut déjà même tous faire pour nous. Voilà, et pour les femmes enceintes, parce que c'est pareil, le but aussi c'est de pouvoir recevoir des futurs parents. Donc de faire attention aussi, on voit beaucoup de femmes enceintes avec le téléphone pendant les consultations sur le ventre directement. Les ondes passent aussi par le ventre. Donc essayer de limiter au maximum cet usage au quotidien, quoi. Essayer de faire au minimum en tout cas, pour prévenir. Ça prévient aussi pour elles et pour l'enfant, c'est de la prévention du coup. Elles avaient aussi toutes, à titre personnel aussi, chacune des demandes, des réflexions. Et effectivement, ça a permis à chacune de se réapproprier aussi ce qu'elles faisaient, d'approfondir leurs connaissances et puis de pouvoir justement transmettre. Là, le but, c'était aussi qu'on soit une équipe entière à pouvoir transmettre autant en néonat que sur la maternité qu'en pédiatrie, parce qu'effectivement, ça touche l'enfant du plus jeune âge, même chez les plus grands. Et ça permet aussi, au moment des conseils de sortie, au moment des hospitalisations, de pouvoir aborder et donc de guider au mieux les parents et justement de les informer et les sensibiliser par tous, qu'on ne soit pas que 2 ou 4 à être formés et à pouvoir former tout le monde et informer les parents surtout.
Donc il y a forcément ces ateliers qui sont proposés une fois par mois. Est-ce qu'il y a une petite documentation ou une ressource autre éventuellement pour s'y référer après ou pas du tout ?
Oui, tout à fait. Sur le site WECF, tout le monde peut avoir accès. Il y a en effet des fiches pratiques qui vont reprendre les différentes thématiques que l'on a pu aborder. Il y a également l'application Ma Maison Santé qui va aussi reprendre les différentes pièces de la maison. Et encore une fois, les différentes thématiques qu'on a abordées là, donc une par une avec les actions proposées. Les 1000 jours, en effet, sur le site des 1000 jours. Puis après, ça va être différentes applis, des applis où on va pouvoir scanner le code barre, notamment sur les cosmétiques. Ça pourra nous indiquer si ce produit est sain ou moins sain. Et donc, nous influencer sur l'achat ou non de ce produit-là.
Alors, le prochain atelier, du coup, a lieu jeudi prochain, le 12 janvier, de 17h à 19h, au niveau de la salle de préparation à l'accouchement du service gynécologie. Pour s'inscrire, du coup, il faut appeler directement le standard de l'hôpital et demander le secrétariat de néonatologie qui permettra de s'inscrire directement.
Et donc, toutes les infos, bien sûr, eh ben, ce sont les mêmes, mais le prochain atelier, c'est bien ce soir de 17h à 19h. Vous pouvez vous inscrire au 02 43 66 50 29. On fait une petite pause en musique avec Lake Street Dive, This Magic Moment.
Magic moment, so different and so new, was like any other, until I looked at you and then it happened. Oh, it took me by surprise. I knew that you felt it too by looking in your eyes, sweeter than wine, softer than a summer night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, oh, this magic moment, while your lips are close to mine, will last forever, forever till the end of time. Oh.
C'était Lake Street Dive, This Magic Moment, dans l'agité du local sur l'autre radio, que vous pouvez écouter sur le 101.7 à Laval et le 107.9 à Château-Gontier. On est jeudi, et vous le savez si vous écoutez souvent cette émission, le jeudi est synonyme de pensée locale, ça ne rime absolument pas. Pensée locale, donc réalisée avec d'autres radios associatives de la région. Et aujourd'hui, on va parler vin et duc de Bretagne, et oui, avec eh bien, un vin du Berlégout, justement. L'introduction du Pinot Noir en Bretagne date du XIe siècle, pourtant, et son essor au XVe siècle est dû au duc de Bretagne dont je parlais tout à l'heure, mais il a longtemps disparu avant d'être réimplanté sur son site historique en 2010 par l'association justement Le Berlégout. Elle gère deux parcelles et produit en rouge et en rosé 2 hectolitres de vin par an. Je vous propose d'écouter ce reportage signé Alternante.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Bonjour Yves.
Bonjour Michel.
Nous allons où ?
Nous allons au parc Joseph Bricot voir une vigne mystérieuse.
Cette vigne mystérieuse, comme la désigne Yves Averti, réimplantée en 2010 dans le parc Joseph Bricot sur la commune de Couéron en Loire-Atlantique, produit 2 hectolitres par an de berlingot, un pinot noir longtemps disparu et remis au goût du jour par l'association éponyme. Sur ce site expérimental de 383 cèpes, nous attendent Alain Poulard, l'un des cofondateurs de l'association Le Berlingot et ancien responsable de l'unité de Nantes de l'Institut français de la vigne et du vin, ainsi que Maurice Fouché, l'un des vendangeurs complices. Nous rentrons dans le parc, nous avons rendez-vous avec Alain Poulard.
Donc il est œnologue, enfin il a plein de titres autour du vin, et donc il aime planter des vignes anciennes et tester si ça pousse, si on peut faire du vin avec. Donc voilà, et donc il réussit.
Le Berlingot, c'est un nom qui est associé au territoire.
Oui, parce qu'en fait, le clos du Berlingot, c'est un ancien endroit. Si ça s'appelait Berlingot, ce vin, c'est parce qu'il a été cultivé ici, il y a très longtemps, parce que c'était au temps des ducs de Bretagne. Ça fait un petit moment.
On est sur un coteau.
C'est un coteau, donc on monte.
On voit quelqu'un qui est équipé. Bonjour.
Salut. Ça va ?
Pensée locale, un enjeu de société.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en comté nantais, il y a deux grandes abbayes de cisterciens, Citeaux, donc c'est les grandes abbayes bourguignonnes, qui sont développées dans le sud de Loire, donc Villeneuve et puis Buzet, qui semblent à l'origine de la dispersion en fait, du pinot noir dans le comté nantais, à partir du XIe siècle.
Pour entretenir la vigne, il faut des mains, des petites mains. Donc oui. C'est tout un petit groupe d'amis, c'est une association qui s'occupe de ça et qui fait quoi?
C'est l'association du Berlingot, qui a pignon sur rue. Bon, les bras, on est une petite poignée, hein, on va dire, à travailler. Alors c'est vrai que là-dessus, on a l'avantage d'être en enherbement total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail de sol. C'était volontaire, puisqu'en fait, le Berlingot est un cépage très, très vigoureux. En travaillant de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'avec des labours, il donne des quantités de raisins assez importantes. Donc l'idée, c'était de le mettre en concurrence avec l'herbe. Et donc, avec l'herbe, ça calme la vigueur et ça permet d'avoir des rendements beaucoup plus homogènes.
Maurice, qu'est-ce qui vous a fait rejoindre le groupe? Parce que c'était des voisins?
Parce que je connais Alain depuis très longtemps. Et puis, c'est par hasard, je dis, tiens, je vais m'occuper, ça va me sortir, je vais prendre l'air, voilà. Et au fil du temps, je me suis mis à travailler avec Alain et le reste de l'association de Berlingot. Traditionnellement, dans la famille, mon père était viticulteur, mes grands-pères aussi, tout ça, donc ça m'intéresse, ça fait prendre l'air.
Ça gratte un peu le sol.
Alors là, c'est la ville qui remplace la barrière qui était pourrie. Donc, une opération ce matin, remplacement de la barrière.
La taille, ça se passe en hiver.
La taille, ça démarre une fois que les feuilles sont tombées chez les viticulteurs. Parce qu'en fait, les viticulteurs, ils n'attendent pas le mandat pour tailler. Quand on a 30 ou 40 hectares de vignes, on commence dès que les feuilles sont tombées en novembre. Et ça se poursuit jusqu'à la fin mars, début avril, quoi. Et donc, l'idée, c'est d'enlever la branche fruitière de l'année précédente. Nous, on garde deux branches porteuses pour l'année en cours, hein, deux branches fruitières, avec deux petits courçons, c'est-à-dire des courbois de deux yeux, qui serviront à produire en fait, des branches pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'on taille pour l'année, mais aussi pour l'année suivante. Et donc, pourquoi deux branches porteuses? Parce qu'en les laissant en position verticale, il y en a une qui peut casser. Quand on roule sur le fil, la branche peut casser, donc on en met une de secours. En gros, au mois de mai, une fois que la lune rousse est passée, on va rouler sur le fil une des branches à fruits, la deuxième, on l'a coupée.
Il faut presser le raisin, donc ça se passe où?
Ça se passe à la Chabessière, tout se passe à la
Chabessière. Quartier de Couéron.
Ah bah oui, oui, on a hérité d'un pressoir, un truc vraiment français, parce qu'il y a l'étiquette encore qui vient de Saint-Étienne, manufacture de Saint-Étienne, donc ça c'est un truc extraordinaire. Et puis bon, bah, on presse, on prépare le vin, et puis ensuite la vinification. On fait ça tranquillement dans des petits récipients, à raison de... Ça fait 25 litres, peut-être. Donc c'est comme ça que ça permet de faire des rosés, des rouges, enfin, différentes préparations. Mais ça, c'est notre spécialiste qui nous fait tout ça, bien sûr.
C'est un pressoir à bras?
Oui, oui, oui.
Il faut des muscles?
Ah oui, oui, il faut des muscles. Mais on n'en manque pas. Il faut même les ralentir, parce qu'il y en a qui sont capables de casser le pressoir.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
Et diffusé bien sûr sur l'autre radio, donc que vous pouvez réécouter sur notre site. Comme tous les autres reportages, le prochain ce sera évidemment... Eh bien, jeudi de la semaine prochaine, puisque ça y est, c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui. Mais restez sur l'autre radio, puisqu'une soirée spéciale cinéma vous attend ce soir. Une soirée ce soir, c'est logique. À partir de 19h, avec Le Masque et la tronçonneuse consacrée au dragon du 7e art. Et oui, suivi d'une playlist concoctée par nos animateurs préférés avec des musiques de films, des très jolies musiques de films. Et ce sera suivi à 21h de Quand la musique est bof, évidemment pour bande originale de film, avec celle de La ligne rouge, film de Terrence Malick de 1998. Donc vous voyez, même si on est à la radio, une soirée spéciale cinéma vous attend ce soir. Nous, on revient demain, toujours à 12h15, pour la dernière émission de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée.